Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais évoquer ici une pièce et un écrivain dont certains d'entre vous n'ont probablement jamais entendu parler. L'écrivain, c'est Jan Kochanowski. Il est polonais, il a vécu au XVIe siècle et il est à l'origine de la réforme, enfin disons de l'évolution de la langue polonaise. Il a écrit des poésies qui ont été considérées comme des chefs-d'œuvre dans son pays. Et il a écrit notamment une pièce qui s'appelle « Sur le congé des ambassadeurs grecs ». Alors, bien sûr, ce congé des ambassadeurs grecs a pour cadre la ville de Troie. Je vous rappelle en gros l'histoire, pour ceux qui l'auraient un peu oublié. Paris, prince de Troie, a enlevé Hélène, qui est grecque et épouse de Ménélas. Et les Grecs ne mettent pas ce rapt, si on peut dire. En réalité, on le sait, Paris n'avait pas tellement le choix. C'était la déesse Vénus qui lui avait dit qu'il serait l'amant de la plus belle fille de la Terre, à savoir Hélène de Sparte. Et dans ce congé des ambassadeurs grecs, on voit au départ des Grecs qui arrivent à Troie et qui essaient de récupérer Hélène, qui a été enlevée par Paris, pour éviter la guerre. Notamment l'un d'eux qui s'appelle Anténor. Et c'est la scène première de la pièce. Scène première, Anténor. J'ai pensé depuis longtemps, j'ai même prédit que les vaillants enfants de la Grèce ne saurait se résoudre à souffrir patiemment une semblable insulte, un affront si public. Et déjà leurs ambassadeurs sont entrés dans nos murs et viennent redemander Hélène, qu'Alexandre, hôte infidèle, n'a pas craint d'enlever à son époux. Alexandre, le nom qu'on donne à Paris. L'entraînant jusqu'à Troie à travers les mers orageuses, si nous refusons de les entendre, de les remettre entre les mains de Ménélas, sa parure épouse, plus d'espoir pour la paix. Et si les envoyés grecs se retirent sans avoir rien obtenu, attendons-nous à voir leur armée débarquer sur nos rivages, porter la descente dans nos campagnes. De son côté, Alexandre Paris veille sur ses intérêts, se fait des amis, prodigue ses trésors. En fait, en présent, moi-même, il cherche à me gagner préserve. Celui qui somme l'or en attendant le jugement ne croit pas à la justice de sa cause, mais il est bien imprudent. L'homme qui accepte des dons au détriment de la République. Croit-il donc se sauver seul du naufrage de l'État? Il est temps de me rendre conseil, c'est aujourd'hui. Oh, je crois voir. Paris, oui, c'est lui-même. Entre Paris. Tous les autres, je viens te supplier. Respecte l'Anténor. Sois favorable à ma cause et prête à ton assistance pour repousser les prétentions des ambassadeurs grecs. Prince, tu me verras toujours à faire ce qu'exige la seule justice du pays. Pensons pour une excuse. En ténor, oui, alors que ces demandes sont dictées par les. Favoriser des étrangers plus qu'un des siens n'indique pas un exempt de jalousie. En ténor, vouloir servir un ami plus que la vérité me semble trop répugné à l'honneur. Parer la main, lave la main, un pied aide à soutenir l'autre. Le sein d'un ami est l'asile de l'ami. En ténor, l'honneur avant tout. L'amitié véritable ne demande jamais le sacrifice. Parer l'amitié, dit-on, s'éprouve dans le besoin. Parer, elle doit se trouver pure quand on soutient la cause d'un ami. En ténor, 100 fois plus pure lorsqu'on n'appuie que l'équité. Et ainsi, ton équité consiste à défendre les Grecs. En ténor, oui, quand un Grec a de bonne cause. Paris, je le vois, tu te disposes à me condamner. En ténor, ainsi, tu t'es jugé toi-même. Paris, on s'aperçoit que les ambassadeurs sont tes hôtes. En ténor, ma maison est celle de tous les hommes justes. Paris, surtout, lorsqu'ils y entrent les mains pleines, certes. Et c'est moi qui ai besoin de répandre l'or pour gagner mes juges, m'assurer la possession d'une femme, enlevée à son époux. Paris, tu ne refuses point les dons offerts par les Grecs. Les miens seuls sont trop faibles à tes yeux. Je t'ai déjà dit que je ne prenais ni les présents ni la femme d'autrui. Mais je vois que tu parles comme tu vis sans honte et sans pudeur. Laisse-moi. Paris, tu me fais repentir de t'avoir adressé ma prière. Je me confie à mes dieux et sans plus mendier ton suffrage, je saurai trouver des hommes qui soutiendront ma cause. Oui, des hommes tels que toi. Paris, des hommes incorruptibles. Entre le cœur. Que de bien serait réservé aux jeunes gens si la raison était la compagne de leur âge, non. L'océan ne produit pas de perles en si grande abondance, ni la terre autant de trésors précieux, si l'une pouvait s'allier à l'autre, de combien de chagrins serait délivré le monde. La jeunesse goûterait des voluptés plus favorables et ne se préparerait pas une éternité de peine. Négligeant aujourd'hui les avis de la raison, elle se laisse entraîner par la fougue de ses désirs. En un moment, tout disparaît, honneur, richesse et vie, la patrie elle-même est menacée de sa chute. Et... oh, toi, que cache l'immensité des cieux? N'est-il pas en ton pouvoir de donner tout à la fois et jeunesse et prudence? Faut-il donc toujours payer l'une au prix de l'autre? Si la première est précieuse, la seconde l'est également, mais... voici Hélène. À quoi songe l'infortunée? Elle n'ignore pas que le conseil délibère sur son sort. Devra-t-elle rester à Troie ou revoir de nouveau la Grèce et les murs de Lacédémone? Hélène s'exprime dans un monologue et une matrone essaie de la consoler. Ne t'afflige pas, ma chère enfant. De cette sorte doit s'écouler la vie, un jour dans la joie, l'autre dans la douleur. Nos plaisirs sont de courte durée, mais les chagrins ne sont pas éternels. Ainsi les dieux l'ont ordonné, ainsi l'a voulu le destin. Hélène, tu te trompes. Cette tresse n'est point issue d'une manière égale, les fils de la fiction sont plus nombreux que ceux du bonheur. La matrone. L'homme sent plus vivement le mal que ses souhaits accomplis ne lui procurent de joie. De la seule lui vient cette idée qu'il a plus de sujets de s'attrister que de motifs pour se jouir. Hélène. La somme des mots l'emporte sur celle du bien. Ne sais-tu pas qu'il n'est qu'une route pour arriver à la vie et que 1000 chemins conduisent à la mort? Ne sais-tu pas que l'homme mortel n'a qu'une santé, qu'il est tourmenté d'un nombre infini de maladies diverses? Cette divinité qui gouverne tout à son gré, dont les mains disposent de toutes les richesses de l'univers, la fortune n'est-elle pas là pour attester la vérité de mes paroles si elle sait plus enrichir quelques êtres privilégiés, voir combien elle en a condamné au tourment de la pauvreté. Et certes, elle n'agit point de cette manière par envie ou par avarice, mais elle est contrainte par l'inflexible nécessité. Aussi à peine a-t-elle choisi celui qu'elle veut combler de ses faveurs, qu'elle se hâte d'arracher aux autres ce qu'elle veut lui donner. Tu dois voir à présent, et je n'en parlerai pas davantage, que les événements fortunés sont beaucoup plus rares sur la terre que les chances du malheur. La matronée que nous importe. Ce que nous devons demander aux dieux, c'est qu'ils daignent nous protéger contre les coups répétés de l'adversité, puisqu'il n'est point donné à l'homme d'en être tout à fait exempt. Mais comment se fait-il que nous ne recevions point de nouvelles du conseil? Je sais que Paris ne manquera pas de nous faire part de la décision qu'on va prendre. Retirons-nous, car il ne convient pas à des femmes de s'absenter de leur demeure. Je vous propose une pause musicale. La suite de cette pièce, le congé des ambassadeurs grecs. Harry, Hélène en scène, arrive l'envoyé de Paris. L'envoyé. Ma maîtresse attend sans doute mon arrivée avec anxiété, mais le sort à propos de son palais, princesse, Tu vois en moi le porteur d'une excellente nouvelle, Hélène. Y trouverais-je quelque consolation? Là, voyez, les ambassadeurs grecs partent peu satisfaits, et pour toujours, tu restes avec nous. Hélène, étais-tu présent au conseil ou ce que tu me rapportes le tient-tu d'une autre bouche? L'envoyé, j'ai tout vu, tout entendu moi-même. C'est de la salle même des délibérations que je me rendis vers toi, par ordre de Paris. Hélène, hélas, dois-je m'en réjouir? Mais satisfait mon esprit en me donnant de plus amples détails sur les événements qui viennent de se passer. L'envoyé, écoute. À peine les premiers de l'État avaient-ils pris leur place que le roi leur parla dans les termes suivants. Illustre Troyen, ce ne fut jamais mon usage de prendre une délibération importante sans avoir reçu vos avis. Et quand bien même cela me fût arrivé une fois, ce dont ma mémoire me permet de douter, je ne voudrais pas agir de la sorte dans la cause qui nous occupe, car je craindrais que l'amour paternel ne me prévînt en faveur de mon fils. Si dans mon cœur, la nature ne cessa jamais de conserver ses droits, toujours est-il que le bien de l'État eut ma première pensée. Ainsi donc, je n'accorderai ma sanction qu'à la volonté générale. Mon fils prétend avoir trouvé une épouse en Grèce. Il l'a conduite en ces lieux. Des ambassadeurs grecs la réclament. Fera-t-on droit à leur demande ou la leur refusera-t-on? Voici sur quel sujet il convient de délibérer. Alors Paris se lève et prend la parole. Il me semblait avoir déjà donné une réponse convenable à ses envoyés en leur exposant ma conduite. Aujourd'hui, dans l'encrein de vous fatiguer de paroles inutiles, je dirai peu de mots. Abandonner ma cause à la justice des dieux, aux bontés de mon père et à l'opinion publique, vous savez tous quelle fut ma vie. J'ai toujours préféré aux fêtes tumultueuses le plaisir de poursuivre au milieu des forêts épaisses ou la biche timide ou le sanglier furieux. Je trouvais des charmes à me reposer sous une hutte sauvage ou à défendre paisibles troupeaux. Alors, je ne songeais point à Hélène. Et ce nom n'était pas encore parvenu jusqu'à moi. Trois déesses me choisirent pour leur juge. Et Vénus reconnaissante me l'a promis pour épouse. D'ordinaire, les hommes demandent des faveurs aux dieux, moi, lorsque les immortels m'accordent de même leurs bienfaits, j'oserais les mépriser. J'ai accepté. J'ai dû le faire. Bien plus je conçois la ferme espérance que la même divinité qui m'aida de son regard protecteur ne m'abandonnera pas et qu'elle ne me laissera point ravir un présent que je tiens d'elle. Je suppose, encore que j'eusse acquis mon épouse sans une intervention divine, m'était-il pas permis en représailles de nous venger de la rue des Grecs par des moyens semblables aux leurs? Ainsi donc, si je suis coupable, ils ne sont pas exempts de crime. S'ils prétendent à une réparation qui commence par nous l'accorder à nous-mêmes, eux qui ont commis tant d'outrages. Mon père alors pourra leur livrer non seulement Hélène, mais encore Paris, qui ne se refuse point à servir de victime. Toutefois, si dans leur orgueil ils osaient attendre une justice qu'ils ne veulent rendre à personne. Je tiens pour certain que s'il plaît aux dieux, on n'acquiescera point ici à leurs prétentions. Et quoi, mon père O'Toole, aurait-il oublié déjà les insultes dont lui-même a été l'objet, les ravages portés jusqu'au sein de cet illustre empire? La terre gémit encore, couverte de nos murailles renversées, nos campagnes au front, par toutes les traces déplorables de la marche des Grecs, de leur cruauté. Non. La seule Hélène, ô mon roi, ne peut balancer tant d'outrages. Non. Le seul Paris n'est pas capable de la venger. Il se tait. Un murmure flatteur et favorable indique quel sentiment s'est emparé de l'assemblée. C'est ainsi que dans la saison brûlante de l'année, un jeune essaim d'abeilles laborieuses murmure dans la ruche quand il aperçoit son nouveau chef et qu'il éprouve le désir de fonder ailleurs une nouvelle république. On entend d'abord un sourd bourdonnement, puis qui bientôt s'accroît et s'augmente sans cesse. Tel était le bruit qui remplissait alors la salle du conseil. Un ténor prononça alors ce discours. Ô roi, de longs discours seraient ici superflus. Paris a encouru l'animadversion de la Grèce en violant toutes les lois de l'hospitalité chez un homme illustre qui lui avait offert son palais comme asile. Il lui a enlevé sa femme et en a fait la sienne. Ton fils, se faisant suivre de la plus vile esclave de son hôte, nous eussant contre lui paru coupable envers lui. À plus forte raison l'est-il, puisqu'il a entraîné au plus odieux des crimes que Ménélas ne peut abandonner ni réclamer sans honte. Je le prononce hardiment, Paris est coupable. Et pour ne point rajouter d'injustice à l'outrage, mon avis est que nous devons faire droit aux réclamations des Grecs. Ce qui ne peut être douteux, c'est que s'ils ne sont pas écoutés en la personne de leurs ambassadeurs, ils sauront appuyer leur juste demande par la force des armes. Qu'Alexandre cesse donc de tenir à une épouse si chère, à une union cimentée au prix de notre sang et de la ruine de la patrie. Si ce fit à la protection d'une déesse, qu'il craigne celle des deux autres que son jugement a outragée. Je tremble qu'en ce jour, ce ne soit encore un moyen pour punir nos forfaits. Voilà ce qu'il faut prévenir, ô mon roi, et d'autant plus promptement que dans nos premières calamités, tu faillis expier par ta mort les fautes de ton père. La conversation se poursuit et finalement, bien finalement, pour que l'histoire soit vraiment en place, les Troyens refusent de rendre Hélène. Et la pièce se termine pratiquement avec la scène qui met en scène Cassandre. Cassandre, cette messagère des dieux qui dit toujours la vérité, qui prédit ce qui va arriver, mais que personne ne veut croire. Cassandre, Dieu cruel, pourquoi m'avoir accordé une voix prophétique si ma voix ne doit frapper que les airs? Pourquoi lirais-je dans l'avenir si mes paroles se regardaient comme de viles impostures ou des songes trompeurs? Quels hommes pourront profiter du bienfait de ma présence? Quels hommes écouteront favorablement les avis dictés par un esprit qui n'est pas le mien? À quoi sert donc d'avoir assujetti mon sein oppressé, mes membres tremblants à un hôte impitoyable en vain? Je lutte contre lui, je cède, Apollon, je ne suis plus à moi. Grand Dieu, où suis-je? La lumière vient de s'obscurcir, un sombre nuage couvre mes yeux. Voici deux soleils, et voici deux, trois. Une biche traverse les mers profondes, objet sinistre, funeste présage accouré au rivage berger de la Troade. Gardez-vous de laisser aborder cet hôte dangereux. Maudite est cette terre où cette biche s'élancera. Maudite est la forêt où elle reposera ses flancs. Toutes ces traces doivent être lavées par le sang. Elle porte avec elle mort, incendie, héroïne. Ô ma belle patrie. Ô mur, ouvrage de mains immortelles, quel sort cruel vous attend. L'arbre brisé ouvre la terre. De sa racine s'élève une branche nouvelle qui surpasse toutes les espérances. Mais mon père, n'aie plus d'espoir en nos dieux protecteurs. N'embrasse point leurs autels sacrés. Un lionceau plus cruel que le monstre qui lui donna le jour te poursuit et te serre dans ses griffes aiguës de ton sang, assouvi sa gueule affamée. Tes fils sont massacrés, tes filles chargées de chaînes. D'autres victimes expiatoires sont immolées sur le tombeau des morts. Et toi, mère infortunée, tu ne parleras pas à tes enfants. Ta voix s'élève en hurlement affreux. Je vous remercie de m'avoir écouté.